10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ma chère aujourd'hui?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour, ici c'est votre heure car nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables, difficiles, particulières, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Le passage à l'âge adulte s'accompagne souvent de la fameuse crise d'adolescence. Avec elle, le ton qui monte et les portes qui claquent. Si pour certains, elle se passe sans trop de heurts, c'est parfois un véritable enfer pour les parents et pour ceux qui la vivent. Agressivité, sentiment de toute puissance, crise d'identité, repli sur soi. 40% des adolescents disent douter de leur image devant un miroir, selon une enquête réalisée par l'INSERM en 2013. Une crise d'identité qui peut aussi engendrer un profond mal-être et des conduites à risque. Comment agir face à des adolescents rebelles et difficiles? Comment garder son calme? Comment se sent-on adolescent en pleine crise? Crise d'ado, comment la gérer? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons bien évidemment vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Le 3921, c'est le numéro que vous connaissez et que vous composez, le standard d'Europe 1, 39 21, 50 centimes la minute, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas également à nous écrire, et Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Isabelle sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Isabelle.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 52 ans et j'habite en Belgique, à Liège.
À Liège.
Oui.
Superbe ville de Liège que j'adore. Alors Isabelle, vous êtes la maman d'un adolescent de 16 ans et d'un jeune adulte de 22 ans. Et c'est avec le petit dernier que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Vers quel âge a-t-il commencé à changer?
Je dirais un peu après l'arrivée en secondaire, vers 13-14 ans. Et ça alors, a commencé tout doucement.
Les premiers signes ont été quoi?
Les premiers signes chez moi, c'était plutôt de l'isolement.
De l'isolement, d'accord.
Oui. Oui.
C'était dû à quoi, à votre avis?
Il avait tendance à rester seul dans sa chambre et à vouloir qu'on le laisse tranquille. Mmh. En fait.
Donc un certain repli sur lui-même?
Oui, c'est ça, tout à fait. Un refus de participer aux activités de la famille, de voir... du monde, des gens, et voilà, c'est vraiment ça, oui. Oui.
Et comment ça se traduisait à votre avis? C'était une perte de confiance en lui, à votre avis?
Dans un premier temps, oui, j'ai imputé ça à l'adolescence. Oui, je me suis dit que voilà, il faisait sa crise et qu'il fallait un peu de temps pour qu'il se trouve.
Ouais.
Mais ça a rapidement dégénéré.
Alors justement, comment ça a évolué tout ça?
Mais il s'est isolé de plus en plus.
Oui.
Et bon, moi, évidemment, en tant que maman, je voulais garder un côté directif.
Ouais.
Et voilà, je voulais le conseiller, je voulais un peu imposer ma façon de faire.
Mmh.
Et je pense que j'ai fait, voilà, c'était la pire erreur à faire, évidemment. Hein.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, en fait?
Parce que j'ai eu des réactions immédiates. Assez agressive.
Mmh.
D'abord, c'était des mots, et puis c'était des claquements de porte, puis ça a été des cris, et puis on en est même venu à un moment donné aux menaces. Oui.
Ouais, d'accord. Vous avez, je crois, eu beaucoup de mal à vous dire ça n'est pas de ma faute, hein, il ne me déteste pas, c'est juste une crise qui passe. Vous culpabilisiez, vous pensiez l'avoir mal éduqué, être passé à côté de quelque chose?
Oui, 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 mal éduqué, je ne sais pas, parce que j'ai un aîné qui a 22 ans et qui n'est pas passé par là, du tout.
Ouais, ouais.
Donc
lui,
c'était tout
il est carrément différent, hein, celui de 22 ans est totalement différent.
Tout à fait, oui. Mm-hmm. Il n'a pas fait de crise, il a sûrement fait une crise intérieure, j'imagine, mais extérieurement, on n'a rien vu. Donc, dans ce cas-ci, je ne comprenais pas où était l'erreur, où je m'étais trompée.
Mm-hmm.
Donc, très vite, j'ai cherché de l'aide... ailleurs.
Auprès d'un psychologue, je crois. Hein.
J'ai commencé par là, oui, tout à fait.
Et
psychologue pour enfants.
Il a accepté?
J'ai eu du mal, honnêtement. Il a fallu insister un peu, mais il a fini par accepter.
Ouais.
Et je n'ai pas vu vraiment d'amélioration notable, honnêtement. Donc j'ai cherché un petit peu partout d'autres solutions pour me faire aider et pour l'aider, lui.
Mmh. Quelle relation avait-il avec son grand frère? Est-ce que vous avez essayé de passer par là aussi? Est-ce que la relation était assez forte avec son frère pour comprendre ce qui se passait dans la tête de votre,
honnêtement,
de votre fils?
Quand le plus jeune a commencé sa crise d'adolescence, le plus grand sortait à peine de l'adolescence, n'était pas encore tout à fait adulte. Donc, honnêtement, j'estimais que ce n'était pas, un problème à lui mettre sur les épaules.
Mmh. Est-ce que vous avez comparé la crise de votre fils à la vôtre? Est-ce que vous en avez vécu une, vous, crise d'adolescente?
Ah oui.
Et donc,
oui, effectivement.
Donc, il vous ressemblait peut-être, ce petit, finalement?
Mais voilà, j'y ai pensé aussi.
Bah oui.
Je me suis dit, est-ce que c'est une part d'hérédité, ce caractère plus vif?
Mm-hmm.
Oui, c'est fort possible. Et je me suis posé la question, honnêtement.
Et est-ce que c'est par là que vous avez commencé à comprendre d'où ça venait?
Je n'en sais rien. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à force de chercher de l'aide et de demander aux gens, j'ai changé, moi, ma façon de faire.
Mmh.
Donc je n'étais plus dans un système directif, dirigiste.
De conflit.
Mais j'étais plutôt à l'écoute de ce qu'ils voulaient.
Alors comment se passe aujourd'hui, justement, depuis que vous écoutez?
Ça va beaucoup mieux. Et disons que j'ai dû changer mon fusil d'épaule. J'étais une maman assez maternelle.
Ouais.
Voilà, et là, j'ai dû prendre de la distance et prendre sur moi pour ne plus imposer mes choix. C'est ça le plus difficile.
Mmh. Et depuis, tout va mieux. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre appel et votre témoignage 39-21. Donc, et bisous à tous les gens qui nous écoutent, tous nos auditeurs et nos auditrices de Liège, puisque vous êtes nombreux à nous écouter en Belgique. Nous allons, dans quelques instants, accueillir Dominique. Il parle avec humour de cette période avec sa fille, puisque lui, il parle carrément de guerre 14-18, puisqu'il fait allusion 14 ans jusqu'à 18 ans. Ça a été assez l'enfer, visiblement.
Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage d'Isabelle qu'on vient d'entendre. Vos ados vous mènent la vie dure. Vous nous racontez comment ça se passe à la maison au 39-21. Votre jolie fée est devenue hystérique. Votre petit prince est un zombie désormais, toujours en conflit. La crise d'ado, vous connaissez le 39-21 pour nous appeler, pour nous raconter comment ça se passe à la maison. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Nous étions il y a quelques instants avec Isabelle qui nous appelait de Liège et qui nous expliquait finalement avoir compris que de la maman directive, elle avait laissé un petit peu lâcher du lest
hein,
et puis que les relations avec son fils s'étaient améliorées. Nous accueillons maintenant Dominique sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Dominique.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 57 ans et j'habite à Sydney en Australie.
À Sydney en Australie. Alors là, vous ne nous appelez pas de Sydney en Australie, vous nous appelez chez votre sœur, je crois.
Non, je suis en famille.
Vous êtes en famille
dans le sud de la France.
D'accord, mais autrement, je dois dire à nos auditeurs qu'on se connaît un petit peu, puisqu'on joue au football ensemble, et qu'aujourd'hui, vous êtes entraîneur des gardiennes de l'équipe espoir de l'équipe d'Australie. Donc, c'est quand même un poste. Dominique, vous parliez avec humour d'une guerre 14-18 lorsque votre fille était ado. Pourquoi c'était un conflit permanent entre vous à partir de 14 ans?
14 ans, c'est bon, naturellement, ils ont l'impression, tous les enfants ont l'impression de détenir la vérité.
Ouais.
Et les parents, nous, en tant que parents, c'est pas des périodes faciles à vivre. Certainement pas non plus pour les ados, et elles se cherchent, et donc à chaque fois qu'on a envie de leur dire quelque chose, ils sont toujours contre nous et c'est pas évident.
Parce que c'était une gentille petite fille jusqu'à l'âge de 14 ans, et puis à 14 ans, boum, elle est tombée dans l'affront, dans les provocations. Hein.
Exactement, elle était adorable, mais puis à 14 ans, on lui a dit comme tout parent, de bien travailler à l'école, de faire attention à ses fréquentations. Et de là, elle s'est mise à ne plus travailler à l'école, elle signait des bons de sortie elle-même, elle allait à Paris toute seule.
Ah ouais,
et on recevait les amendes de la SNCF. Et puis, elle ne travaillait plus du tout. Et puis, pour ce qui est des fréquentations, c'est pareil. Elle faisait tout ce qu'on ne voulait pas qu'elle fasse. Quoi.
Ça a dû vous secouer quand même, parce qu'elle est vraiment, elle a radicalement changé, votre enfant.
Elle a carrément changé, oui, d'une gentille jeune fille qui était toujours derrière moi, toujours, elle ne voulait jamais être loin de son papa, et de là, elle faisait tout pour s'éloigner, donc c'était pas évident à vivre.
Un jour, vous avez reçu un appel du commissariat, car elle avait volé dans un magasin. Un autre vous a appris qu'elle n'allait plus à l'école. Comment réagissiez-vous à toutes ces bêtises ? Est-ce que vous avez eu à un moment carrément peur qu'elle tourne mal ? Parce que ça a duré, hein, je crois, hein, de 14 ans à 18 ans, c'est long.
C'est extrêmement long, surtout quand on n'en voit pas le bout. Hein, donc, effectivement, quand on parlait des fréquentations, bah après elle allait voler dans les magasins alors qu'on pouvait lui acheter tout ce qu'elle voulait.
Ouais.
C'était pas évident à vivre. Et de là, avec sa maman, on était séparés depuis longtemps. Avec sa maman, on a toujours été ensemble et on a surmonté ce mauvais moment jusqu'à ce qu'elle puisse trouver sa voie, et elle l'a trouvée finalement dans les études qu'elle avait abandonnées complètement, et elle s'est remise dans les études, et là, après, elle est revenue la charmante jeune fille qu'elle était avant. Quoi.
Alors justement, vous faisiez allusion à cette période où vous étiez séparé avec la maman, hein, de votre fille. Est-ce qu'elle profitait de cette situation ? Parce que souvent, les ados qui sont en crise, en plus, sont assez malins pour profiter de ce type de situation.
C'est tout à fait ce qu'elle a fait. Elle a essayé de profiter. Elle disait, quand elle était avec moi, elle disait, bah écoute, maman m'a dit que je pouvais faire ci ou ça. Et bah, comme on s'entendait bien avec sa maman, moi j'appelais tout de suite sa maman et je lui dis, bah écoute, est-ce que Marine a le droit de faire ci ou ça ? Elle me dit, non, je lui ai jamais dit ça. Et donc, d'être en très bon rapport avec la maman, ça nous a aussi servi pour qu'elle s'en sorte. Et je pense que ça l'a aidé aussi beaucoup. D'avoir de l'amour de chaque côté. On n'a jamais baissé les bras. On a naturellement dans le conflit, mais on n'a jamais dépassé les bornes. Et elle ne les a jamais trop dépassées non plus. Donc c'est assez facile.
Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous vous dites que c'était un passage obligé au final ?
Alors, en tant que parent, naturellement, quand ça commence à vous tomber dessus comme ça, on se renseigne autour de nous. Hein, on a tous des amis plus anciens. Et on s'est renseigné, effectivement, beaucoup de jeunes filles, moi je connais que au niveau des jeunes filles, parce que naturellement ma fille donc était une ado assez difficile, et donc je me suis renseigné, et elle me dit oui, la mienne c'est pareil, tous nos amis. Alors après on a dit, bon bah écoute, on va tendre le dos et on va faire le nécessaire. À partir du moment où elle ressent de l'amour de ses parents et de ses proches et de ses amis, je pense que c'est une période difficile et à peu près tout le monde passe par là, quoi.
On verra d'ailleurs si c'est pire avec les garçons ou les filles, parce qu'on dit souvent qu'avec les filles, c'est bien pire. On en parlera dans quelques instants avec Daniel Marcelli, qui est pédopsychiatre et auteur du livre « Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs ». Mais justement, on verra si les filles, c'est encore pire. Merci beaucoup, Dominique, pour votre témoignage au 39-21. Et puis, bon retour à Sydney. C'est pour quand le retour ?
Pour fin janvier.
Bon,
on recommence début février.
Vous avez encore le temps de profiter de notre belle terre de France. Merci, Dominique.
Et il y a Patrice, pardon, c'est moi, il y a Patrice qui nous écrit sur Facebook un extrait du message de Patrice. Les ados ont ce don de nous mettre en échec et de nous rendre impuissants. Je crois qu'il est important, quand la situation n'est pas tenable, de pouvoir aller chercher de l'aide et notamment aller voir un psychologue.
Mais ça n'est pas toujours facile, hein, il faut le préciser, parce que ces ados, ils ont quand même cette force de nous faire tourner en bourrique. Et en tant que parent, vous avez encore le temps, hein, Bline.
Oui,
quel âge il a, le petit ?
11.
Hein, plus que 2-3 ans.
Europe 1.
Votre ado est en pleine crise. Venez vous aussi nous raconter comment ça se passe chez vous. Le standard d'Europe 1, c'est le 39-21. Et puis vous pouvez nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix. À la maison, votre ado prend un malin plaisir à dire non à tout, à se moquer de tout, de vous. Comment faire pour survivre en cette période de crise ? Venez partager votre expérience au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Daniel Marcelli, pédopsychiatre et auteur du livre « Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs » aux éditions Lien qui libère. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. On évoquait avec Dominique la crise de 14-18, comme il l'appelle, avec sa fille. Avant de vous demander sur ces crises d'adolescence et si elles sont un passage obligé, est-ce que c'est plus difficile avec les filles qu'avec les garçons ?
C'est différent, je crois. Je pense pas qu'on ait des échelles de gravité. Par exemple, les garçons se mettent plus facilement en danger au niveau de la voiture ou des mobilettes et ont plus facilement vont se casser les jambes.
Ouais.
Les filles vont avoir des comportements de séduction ou des comportements sexuels pas toujours appropriés. Bien sûr, les parents sont peut-être un peu plus inquiets pour les filles que pour les garçons en raison des conséquences que ça a. Donc, les inquiétudes des parents sont pas tout à fait les mêmes. Les comportements des adolescents, garçons et filles, sont effectivement assez différents les uns des autres, même s'ils tendent dans les statistiques actuelles et dans les enquêtes à se rapprocher les uns des autres. Voilà. Mmh. Donc moi, je ne crois pas qu'il y a des filles qui ont des crises plus globalement plus importantes que celles des garçons ou inversement.
Mmh.
Il y a évidemment certaines filles qui ont des crises plus graves que d'autres filles, et des garçons pareils. Mais je ne pense pas qu'on puisse comme ça faire une échelle de gravité.
Parce qu'on évoque souvent que les filles sont plus matures que les garçons au même âge. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Ça, c'est une autre chose. C'est effectivement, il y a une capacité, je dirais que les filles, d'une manière générale, sont plus tournées vers les émotions, vers la pensée, vers une forme de dialogue, de réflexion. Elles vont plus avoir tendance à s'occuper de l'intérieur, à être tournées vers elles-mêmes. Les garçons, ils sont plus dans l'agir, dans l'action, dans la bagarre, dans la violence, dans le foot, dans le sport, dans le fait de bouger. Donc, les besoins des filles et les besoins des garçons, toutes les enquêtes montrent que c'est autour, justement, de la puberté, vers 13-14 ans, qu'ils divergent très nettement. Et ça, c'est montré de manière massive.
Mmh.
Les investissements, intérêt, les relations amicales par exemple. Les filles, elles sont avec une copine ou deux copines, mais elles sont rarement en bande comme ça, d'une douzaine, même s'il commence à y avoir quelques filles en bande. Les garçons, au contraire, ils sont en bande. De temps en temps, ils ont un ami, mais c'est plus souvent en bande.
Mmh.
Vous voyez, donc tout ça est très différent. Et c'est, alors on peut parler du genre. C'est ce qui se marque à l'adolescence de manière extrêmement nette. Et c'est autour des années collège que ça va se mettre en place.
Mmh.
Et d'ailleurs, au collège, si vous regardez bien, les filles sont avec les filles, les garçons sont avec les garçons.
Ouais, ouais.
Même si chacun de son côté s'intéresse à ce que fait l'autre sexe, bien sûr.
Mmh.
Voilà.
On écoutait le témoignage d'Isabelle en début d'émission, qui a eu des problèmes avec celui qui a 16 ans aujourd'hui, mais qui à 14 ans a commencé à vraiment poser problème, alors qu'elle en avait un second qui avait 22 ans et qui n'en posait pas. Est-ce à dire que la crise d'adolescence n'est pas obligatoirement un passage obligé ?
Alors, la maman a fait une remarque tout à fait pertinente. Elle a dit peut-être qu'il avait fait une crise intérieure, voilà,
ouais.
En parlant de l'aîné. C'est tout à fait pertinent ce qu'elle a dit, parce qu'il y a effectivement des crises plus ou moins bruyantes et je dirais plus ou moins externalisées, c'est-à-dire avec des passages à l'acte, avec exactement comme ce qu'a fait la fille de Dominique. Il y a des manifestations très visibles, et puis il y a des adolescents qui sont plus dans leur coin ou qui sont dans leur rêverie ou qui sont dans des pensées comme ça, je sais pas, de style agressif, qui en ont marre de leurs parents, qui les ficheraient bien en l'air, etc. Mais ça reste au niveau de la pensée, Sans être dans l'agir.
Mmh.
Donc, je dirais que, de mon point de vue, il est souhaitable que chaque être humain, au moment de l'adolescence, c'est-à-dire entre 12-13 ans et 17-18 ans, je dirais, transforme quelque chose dans son psychisme, fasse ce qu'on appelle ordinairement une crise d'adolescence, parce que l'expérience m'a montré dans une longue carrière que si on ne la fait pas à cette époque-là, on peut la faire quand on a 30 ans ou 35 ans ou 40 ans, et qu'alors c'est beaucoup plus grave et que les conséquences sociales sont beaucoup plus importantes.
Comment est-ce que vous la définissez, docteur, cette crise d'adolescence ? Est-ce que c'est un besoin de se confronter, de s'affirmer, de poser les limites ?
Il y a beaucoup de choses qui se conjuguent. Hein. D'abord, l'adolescence, je tiens à dire, ce n'est pas une maladie. Hein. C'est une étape du développement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, se cumulent à la fois des changements dans le corps de la personne. Par exemple, vous citiez le fait qu'on se regarde dans la glace à cet âge-là, la puberté, la transformation du corps est quelque chose d'extrêmement important. Il y a également, on ne peut pas parler d'adolescence sans oublier le fait qu'il y a la sexualité qui se met en place
ouais.
Et les relations amoureuses avec tout ce que ça entraîne.
Mm-hmm.
Donc tout ça, c'est des bouleversements. Au niveau, on en parle beaucoup maintenant, au niveau cérébral et neurocognitif, il y a, je dirais, un tumulte émotionnel, des émotions, il y a une excitation.
Mm-hmm.
Tout ça, c'est nouveau. Et puis en même temps, et quasiment en même temps, il y a effectivement la nécessité de faire des choix, et ça, c'est très douloureux. Il y a 50 ans ou il y a 100 ans, on disait aux adolescents, tu vas faire ça. Alors les adolescents, ils pouvaient se révolter contre cette injonction, mais au fond, ils avaient, une sorte de guide, même s'ils n'en voulaient pas. Aujourd'hui, toutes les adultes sont autour des adolescents et disent, mon chéri, dis-moi ce que tu veux.
Ouais, on leur donne le choix.
C'est dans, Voilà. Et le choix est quelque chose de très, très douloureux. Parce qu'effectivement, ben, quand on choisit, on renonce à tout ce qu'on n'a pas choisi.
Ouais.
Donc, il y a le choix. Il y a l'incertitude de la société. Mmh. Et il y a également, donc, il faut quitter l'enfance. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus douloureux. Parce que l'enfance, aujourd'hui, est un temps béni où tous les parents, d'une manière que tous les parents qui vont bien, n'ont qu'un souci, c'est que leur enfant soit heureux. Et je dirais même parfois de combler leur enfant.
Oui.
Et l'âge de l'adolescence, c'est devenu l'âge où on se confronte aux exigences de la société et au fait que bah, la société, elle n'est pas comme les parents, elle n'est pas là pour vous dire oui à tout et vous dire « mon chéri, t'es le meilleur des plus beaux des enfants ».
Et l'âge de l'adolescence correspond aussi à la confrontation, à la vraie réalité, c'est-à-dire avec, il faut commencer à se projeter vers le futur et vers ce qu'on va être dans le futur. Et c'est sûrement pour ça que ça n'est pas une période facile, encore plus aujourd'hui, docteur Daniel Marcellier. Restez avec nous, nous continuerons à parler dans quelques instants de ces crises d'adolescence et justement pour que vous continuiez à nous éclairer et à donner quelques conseils à ces parents qui traversent avec certains de leurs ados eh bien une vraie crise d'adolescence. Dans quelques instants, nous accueillerons Ingrid avec sa fille ado à la maison. Ça n'est pas du tout toujours facile.
Europe 1.
Parents d'ados qui pètent les plombs, alors comment survivre? Venez-vous aussi nous raconter votre histoire au 3921 et dites-le nous également sur Twitter hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Comment ça se passe à la maison avec vos enfants en pleine crise d'adolescence? C'est une guerre de tranchées, comme on a pu le dire un petit peu plus tôt. Comment vous arrivez à gérer? Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 3921.
Est-ce que vous vous souvenez de votre période d'adolescence,
oui.
Vous
Alors, hein ça n'a pas dû être croustillant, j'étais extrêmement sage.
Ah bon? Parce que les filles, souvent, hein, comme le disait le docteur Marcelli, oui. Elles intériorisent tout. Et donc, du coup, moi, j'ai une fille de 14 ans aujourd'hui qui vit sa première histoire d'amour.
Voilà, c'est l'amour
et,
surtout.
Et donc, oui. C'est vrai que les filles, c'est je t'aime, moi non plus, reviens. Oh,
c'est dur.
Je t'aime plus et tout ça. Et finalement, ça aide à construire.
Moi,
à
je trouve
construire.
Que ça forge une personnalité et ça forge je parle pour les femmes, la femme qu'on sera, en tout cas la femme amoureuse qu'on deviendra.
Nous allons justement en parler avec Ingrid que nous accueillons dès maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Ingrid.
Bonjour Olivier.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Ingrid?
Alors j'ai 44 ans et je suis sur Paris.
D'accord. Alors justement, on évoquait ces jeunes filles hein, de 14, 15 ans qui sont en pleine crise. Vous êtes la maman d'une ado. Quel âge a-t-elle d'ailleurs?
Alors aujourd'hui, elle a 15 ans.
Elle a 15 ans. Et comment ça se passe avec elle? Racontez-moi.
Alors, j'ai envie de dire que moi, j'ai l'impression de commencer à en sortir en fait.
D'accord. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, je suis assez ravie. En fait, ça a commencé assez tôt, dès l'âge de, je veux dire, 11 ans à peu près.
Ah oui, oui.
Et ouais, vraiment. Et puis, ça a bien duré 3 ans, en fait.
D'accord. Et sous quelle forme, en fait?
Assez agressive, en fait. Hein. Mm-hmm. Renfermée, agressivité, et puis assez classiquement, une vraie difficulté à échanger, à communiquer, à trouver les clés en fait pour pouvoir échanger.
Est-ce que vous avez su d'où vous avez trouvé les clés justement? Est-ce que vous avez su d'où venaient ces crises?
Oui, enfin, je l'analyse assez. Je pense que tout simplement, peu de temps avant, quand elle avait à peu près 10 ans, je divorçais de son papa.
Ouais.
Et je pense que très clairement, tout s'est enchaîné assez logiquement sur cette crise, en fait.
C'était une manière de vous faire payer tout ça, en fait?
Oui, clairement.
Mmh. Est-ce qu'elle vous l'a fait payer qu'à vous ou au papa aussi?
Je n'échangeais pas énormément à l'époque non plus avec son papa. Il est difficile, je ne sais pas.
D'accord.
Je pense que oui. Et puis, quand bien même je lui aurais posé cette question, elle ne m'aurait pas répondu. Mm-hmm. Parce que justement, elle ne voulait pas rentrer dans ce type de, mm-hmm. d'échange, en mm-hmm. fait.
Alors, vous dites que vous vous êtes senti parfois vraiment dépassé. C'est quoi être dépassé dans ces cas-là?
Ah bah, très concrètement, je me rappelle d'une nuit très agitée. Je ne sais même plus quel avait été l'objet du désaccord au départ. Enfin, j'ai dû lui dire non sur quelque chose et elle n'a pas du tout accepté. Elle devait peut-être avoir 13 ans à l'époque. Et elle voulait s'en aller.
Oui.
Donc, il a fallu que je garde sur moi, je planque toutes les clés. Et c'était un affrontement physique, en fait.
Et ça, donc, vous l'avez bien évidemment mal vécu.
Ah bah, là, en fait, on ne sait plus quoi faire parce que, au début, très honnêtement, on peut être tenté en étant tellement exaspéré par la réponse soi-même physique.
Ouais, mais ouais, bien sûr.
Très vite, on comprend que ce n'est pas une solution. C'était là essayer de la maîtriser, de la calmer. Or, je ne voulais pas se calmer. J'ai appelé son papa à ce moment-là. On essayait de la raisonner, mais impossible de la raisonner. Et je me souviens que cette fois-là, oui, je me suis posé la question si je n'allais pas appeler carrément les urgences psychiatriques, en fait, pour enfants.
Bon, en tout cas, vous nous avez dit avoir quand même compris d'où venait. Hein, elle vous a fait clairement payer la séparation avec son papa. Aujourd'hui, comment va-t-elle, votre fille ? Parce qu'elle elle est finalement rentrée très jeune dans cette crise d'adolescence. Donc, on peut croire qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous écoute, elle en est sortie. Comment elle va aujourd'hui ? Elle est plutôt devenue une jeune fille calme et mûre ?
Elle est plus calme. Elle arrive mieux à maîtriser ses émotions. Je pense que si moi, de mon côté, j'ai fait un chemin, c'est-à-dire que très basiquement, au départ, j'ai réagi avec mes codes à moi, la manière dont moi je fonctionne. Or, elle ne fonctionne pas comme moi et vos enfants ne fonctionnent pas forcément comme vous. Et ça, il faut comprendre que les ressorts qui sont les vôtres ne sont pas forcément ceux de vos enfants.
Et vous êtes la deuxième maman aujourd'hui avec Isabelle à nous dire cela, hein, à dire que finalement, au début, vous avez réagi un peu avec vos codes et puis au final, vous avez commencé à comprendre les codes de votre enfant et finalement, ça s'est arrangé. Merci beaucoup Ingrid pour votre appel et votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Samuel, il n'est pas espagnol, il s'appelle Samuel et il se souvient de sa propre crise d'ado qui était surtout une crise identitaire.
Et concernant la nécessité parfois de consulter, d'aller voir un psychologue, il y a Diane qui nous dit sur Facebook, après quelques séances, quand l'ado dit « je leur ai dit ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils me foutent la paix », là ma seule attente devient son autonomie prochaine.
Europe 1.
Comment rester zen quand son ado à la maison est en pleine crise, les portes qui claquent, une absence totale de communication, 39-21 pour témoigner. Et on lit vos messages aussi sur Twitter, hashtag Europe 1.
De la Croix sur Europe 1.
Votre ado est en crise et forcément vous avez le mauvais rôle. Vous avez fait une crise d'adolescence, vous nous racontez aussi 39-21 pour nous appeler. Vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Samuel sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Samuel ?
Alors j'ai 32 ans et puis je suis en Bretagne, dans le Morbihan.
D'accord. Alors vous dites que l'adolescence pour vous a été une période négative pendant laquelle vous vous êtes senti incompris émotionnellement. Expliquez-moi ça.
Donc en fait ça veut dire qu'on se globalement on se cherche. On se cherche, ça veut dire que on pense avoir la vérité.
Oui.
Vous voyez ? Et on rentre dans une phase où d'un côté on a encore besoin de ses parents.
Oui.
Et d'un autre côté on les rejette en bloc. Donc, ce qui fait que là-dedans, on a du mal à se situer.
Mmh. Ça se traduisait comment dans la relation à vos parents, justement ?
Ouais, c'est un peu le témoignage de la dame précédente. C'est renfermé sur soi-même. Voilà, d'Ingrid. Renfermé sur moi-même. Par contre, je faisais énormément de sport. Donc, ça se traduisait par le sport. J'étais à 15-20 heures de sport par semaine.
Ouais.
Donc voilà, pas mal d'énervement aussi.
Ouais. Contre vos parents ?
Non, j'ai jamais contre mes parents parce qu'ils ont fait tout ce qu'il faut. Hein, donc on arrive presque à dissocier ça des parents. C'est-à-dire que eux, ils m'ont inculqué ce qu'il fallait dans mon éducation, dans la petite enfance, etc. Donc ils savaient que j'allais pas déconner. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, je vois très bien. Mais lorsque vous dites mal d'énervement, c'était envers les autres ou alors est-ce que ça a eu des conséquences sur votre scolarité ?
Non, c'est toujours resté individuel. Mm-hmm. C'est un petit coup de poing dans le mur. Enfin, on n'est pas content, on va taper fort dans le ballon. C'est bon.
Ouais.
C'est juste de quoi passer ses nerfs.
Mm-hmm. Vaut mieux taper dans un ballon que dans autre chose, remarquez. Oui, d'accord.
Oui, voilà. Puis il y a aussi cette distinction. C'est les autres n'y peuvent rien.
Ouais, les autres n'y peuvent rien. Allez-y, dites-moi quoi.
C'est pas parce qu'on traverse un chamboulement. Bon, c'est tout ce que le docteur Marcelli a dit.
Ouais.
On traverse énormément de choses. Ouais, voilà, ouais. On a des points sur le visage. Mm-hmm. On commence à voir les copains qui sont de première copine. Et puis nous, on n'y arrive pas, donc on devient frustré. Et puis on ferme encore plus.
C'est souvent
un cercle vicieux.
C'est souvent une période de doute, hein, d'ailleurs. Docteur Marcelli, quel conseil donner aux parents, même si ces crises d'adolescence peuvent avoir différentes formes, bien évidemment, quel conseil donneriez-vous aux parents aujourd'hui qui nous écoutent?
Ben, moi, d'abord, je voudrais dire que aussi bien Isabelle que Dominique, qu'Ingrid sont des parents qui nous montrent comment faire et qui se débrouillent tout à fait fort bien. Mm-hmm. Alors, d'ailleurs, une des choses qui est difficile et qu'ils disent bien, c'est ce sentiment d'impuissance. Oui. Au fond, d'un seul coup, ils ont l'impression de ne plus pouvoir y arriver. Et c'est une des caractéristiques. Quand on devient parent d'adolescent, on est dans une forme d'impuissance à satisfaire son adolescent. Alors que parents d'enfants, on pouvait le satisfaire, on ne peut plus, en tant que parent, satisfaire pleinement et complètement un adolescent. Mmh. Et du côté des adolescents, ce sentiment de ne pas être compris, il vient justement du fait que, du temps de l'enfance, il avait le sentiment d'être compris de ses parents, et que maintenant, au moment de l'adolescence, au fond, il n'a plus trop envie d'être compris, et de toute manière, il ne peut pas demander à ses parents ce dont il a besoin, en particulier d'une relation amoureuse. Mmh. Dominique a dit quelque chose de très intéressant quand il parlait. Il a dit du temps de l'enfance, ma gentille petite fille, elle était toujours derrière moi, et d'un seul coup, elle en a eu marre, elle ne voulait plus être derrière moi et elle a fait tout ce qui me déplaisait d'une certaine manière. Il montre par là que cette jeune fille avait besoin de rompre le lien d'enfance. Mm-hmm. Alors, le conseil que je donne aux parents, et c'est très en lien avec tout ça, c'est qu'effectivement, plus les parents sont sur le dos de leur adolescent, plus ils veulent absolument trouver la bonne solution. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas la chercher, mais plus ils sont sur leur dos, plus ils veulent le calmer, plus ça risque d'exciter l'adolescent. Mm-hmm. Et l'important, c'est de donner une certaine distance, un espace de respiration.
Et de surtout ne jamais rompre le lien avec cet enfant qui a toujours besoin qu'on échange et qu'on discute avec lui. Docteur Marcelli, vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et auteur du livre « Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs ». Dans quelques instants, nous accueillerons Philippe. Il a 4 adolescents à la maison et prodigue des conseils sur YouTube pour tous ceux qui en ont besoin.
Europe 1. Comment bien gérer la crise d'adolescence de votre enfant? Par quoi êtes-vous en train de passer? Par quoi êtes-vous passé? Quelles sont vos clés? On vous écoute sur Europe 1 au 39-21.
Et bien évidemment, Samuel, embrassez la Bretagne pour nous et mille merci d'avoir témoigné aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1.
Merci de choisir Europe 1. La crise d'ado, comment gérer? Eh bien, vous êtes avec Olivier Delacroix pour connaître les clés, peut-être.
Et pour connaître les clés, nous allons accueillir Philippe. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Philippe, bonjour.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Vous, Philippe, j'ai cru comprendre que vous aviez 4 adolescents à la maison. Quel âge ont-ils dans l'ordre?
Alors aujourd'hui, ce sont des grands adolescents, parce qu'on parle d'adolescence. Il y a une étude qui a été faite en Australie. Part de 12 ans jusqu'aux 25 ans de l'enfant.
Ouais.
Donc, ma fille, 23 ans, et 3 garçons derrière, donc 21, 19 et 17. Mmh. Donc, quand ils ont commencé leur préadolescence, je peux vous dire que c'était inquiétant pour nous.
Mmh. Alors, ça s'est traduit comment? Parce que je suppose que vous n'aviez pas le temps de voir une se déclencher, que l'autre arriver.
Voilà, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a anticipé, c'est-à-dire qu'on s'est... avec mon épouse, hein, on a lu des livres, notamment Françoise Dolto. On est allé, on va dire, à des réunions de parents pour voir un petit peu comment ça se passait.
Oui.
Et pour pouvoir mettre en place des outils, les conseils qu'on recevait. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'on a eu la chance, nous, d'avoir des ados qui ont bien vécu leur adolescence.
D'accord.
Parce que, bien, on leur a fait confiance. Parce que quand on est parent, on fait tous la même erreur, c'est-à-dire qu'on croit connaître nos ados, mais on n'en connaît que l'image qu'on a d'eux, et on aimerait aussi qu'ils soient, on va dire, les meilleurs à l'école, les meilleurs en musique, les meilleurs en sport. Donc, en tant que parents, on voudrait qu'ils soient les meilleurs partout, mais c'est impossible. Et le fait de leur mettre la pression comme ça, eh bien, on va dire, déclenche quelque part une crise.
Alors, tous les parents ne sont pas comme ça, hein, parce que moi, par exemple, je suis tout à fait l'inverse de ce que vous venez de décrire. J'ai compris que mettre la pression sur un enfant et vouloir qu'il soit le meilleur partout, ça ne sert strictement à rien, à part l'angoisser et justement déclencher cette crise identitaire, comme Samuel nous en a parlé il y a quelques instants. Vous, en fait, vos enfants, comment ont-ils vécu une crise, même si elle a été calme, chacun à leur manière ?
Alors, bon, là, on va dire, on en a un qui vit un petit peu une crise. C'est dû, on va dire, à une relation amoureuse. Et
ouais.
Donc, en ce moment, on va dire, il délaisse un petit peu l'école par rapport à sa relation amoureuse.
Mm-hmm.
Donc, on est en train de lui expliquer gentiment comment revenir sur le chemin de l'école et avoir de bonnes notes.
Mm-hmm. Quel âge avez-vous, d'ailleurs ? J'ai oublié de vous demander au début de...
Alors, je suis de Vannes, hein, dans le Morbihan également,
oui.
Et j'ai 48 ans.
D'accord. Donc, vous êtes un jeune papa quand même, hein ?
Oui.
Mm-hmm. Non, mais je dis ça parce que à 48 ans, 4 enfants, vous avez commencé à faire des vidéos sur YouTube à destination des parents d'ados. Et j'aimerais savoir ce que vous racontez dans ces vidéos.
Alors, bah, je partage mon expérience, hein, l'expérience de parents d'ados par des conseils, des outils qu'on a mis en place.
Ouais.
Parce que beaucoup de parents, et alors je suis surpris par les personnes qui viennent également sur ma chaîne YouTube, il y a des ados aussi qui viennent consulter mes vidéos.
Ouais.
et qui trouvent de l'intérêt à ça parce que j'ai des retours. J'ai un ado dernièrement qui m'avait posé une question et j'y ai répondu, on va dire. Dans un premier temps, je lui ai répondu directement et dans un deuxième temps, je lui ai demandé l'autorisation. Je lui ai répondu par vidéo et il me demandait comment faire pour que mes parents m'aiment. Donc,
c'est une sacrée question.
C'est une sacrée question et je lui ai répondu, la première phrase que je lui ai répondu, et c'est une phrase qui est dure, c'est qu'on ne peut pas obliger des parents à aimer leur enfant.
Mmh.
Et donc, à la suite de ça, je lui ai donné plein de techniques pour qu'il soit aimé de ses parents. Voilà, c'est.
Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Parce qu'on touche à la fin de cette émission. Dites-moi voilà votre chaîne YouTube.
Ma chaîne YouTube.
Ouais.
Alors c'est ma chaîne YouTube, c'est mon nom, mon prénom et mon nom, c'est Philippe Visset, V-I-2-S-E-T.
Eh bien, c'est bien noté, Philippe Visset, qu'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube pour les conseils de parents aux ados qui traversent des crises plus ou moins importantes ou non. Mille merci pour votre appel et votre témoignage au 3921. Philippe, merci aussi au docteur Daniel Marcelli pour ses éclairages. On salue aussi, bien évidemment, Isabelle, Dominique, Ingrid et Samuel pour leur témoignage. C'est la fin de cette émission. La crise d'ado est un passage difficile pour tout le monde, mais c'est un passage obligé, hein, on l'a vu. Les parents doivent à la fois se montrer patients et compréhensifs tout en étant fermes avec leur ado. Un curseur pas toujours facile à trouver. Quand l'adolescent se referme sur lui-même et qu'aucun dialogue n'est possible, un psychologue peut vous aider car la communication et l'empathie semblent être les clés pour traverser cette période qui est la crise d'adolescence. Mais le dernier conseil que je donne à tous, c'est de ne jamais rompre la relation avec son enfant.
Et continuez à communiquer avec nous, bien sûr, par le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous pouvez échanger sur les réseaux sociaux sur ce sujet et sur les autres. Et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de l'addiction sexuelle, une maladie encore très taboue qui concernerait pourtant 5 à 10% de la population. Si vous avez une addiction au sexe, si vous étiez addict au sexe et que vous en êtes sorti, si votre conjoint ou votre conjointe sont ou ont été addicts sexuels, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci cher Amblin, j'ai été ravi de passer cette heure avec vous.
Moi aussi.
Et je vous laisse maintenant avec Karl. Karl, il me semble aujourd'hui que tu accueilles des invités de marque, cher ami.
Salut Olivier, formidable ton émission. Alors moi j'attends Chantal Goya et Jean-Louis Debré dans quelques secondes.
Eh bien,
à tout de suite avec Karl Zéro.
À tout de suite avec Karl Zéro et à nous demain 15h.